Bienvenue sur la chaîne Ambiance Architecture Urbanité AAU.
Pas de souci. Oui, donc, ben, voilà, que j'ai compris hein, de l'idée de cette présentation, c'était ça. Comment une expérimentation sonore, enfin, raconter une expérience vécue ou une expérimentation sonore, dans mon cas, là, via des maquettes sonores, donc des oralisations, des prévisualisations, enfin, des pré-écoutes, avait pu interférer sur un travail de conception quoi, d'une équipe. Dans des exemples, moi j'en ai plusieurs en fait, j'en ai pas mal parce que c'est un sujet, ces maquettes sonores sur lesquelles on travaille aussi depuis pas mal d'années pour essayer de justement d'apporter cet outil dans nos phases de conception avec les architectes. Donc bon bah j'en ai retenu un parmi d'autres qui est plutôt sur des aspects sonorités intérieures là d'ailleurs, mais c'est plus parce que ce qui s'est passé autour, ben, répond bien, je trouve, à la question que m'avait posée Olivier. Comment ça a influé sur finalement le processus et l'issue du projet? Alors, je vais essayer de partager l'écran. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est si quand on essaiera d'écouter la maquette, si le son va facilement passer à distance. OK. Bon, donc c'est un projet concret. C'était, je passe vite hein, sur le contexte, mais c'était le nouveau terminal 1 de Lyon Saint-Exupéry, un projet conçu avec donc les architectes Rogers, Stirk, Harbour et Partners de Londres notamment, en conception-réalisation, c'est-à-dire qu'on avait un constructeur dès le début du concours, oui, donc un gros sujet. Sur lequel les questions de sonorité intérieure, évidemment, sont assez importantes dans les grands halls. C'est un endroit qui peut être évidemment naturellement très réverbérant, beaucoup de vitres, beaucoup d'espaces grande hauteur, des sols durs et des architectes qui souhaitent exprimer beaucoup la structure, donc être quelque part très dépouillé en termes de matériaux autres que ceux qui sont structuraux. Et on doit en plus gérer de la sonorisation là-dedans. Donc ça, c'est pour le contexte. Et le travail, notre travail, est d'arriver à donc trouver des solutions et à embarquer l'équipe de conception, notamment les architectes, dans finalement l'apport d'absorption dans ces grands halls pour arriver à gérer notamment ces objectifs assez contraignant d'intelligibilité des messages sonorisés. Et ce qu'on se rend compte au départ, dans les échanges, c'est que finalement, les architectes ont du mal à réellement comprendre les enjeux. Alors, on leur parle des objectifs, hein, c'est du STI, du RACTI, c'est ouais, du TR, c'est les chiffres, c'est les valeurs. Finalement, ça ne leur parle pas tellement. On passe comme ça quasiment 6 mois d'aller-retour. Finalement assez peu productif sur l'avancement du sujet, bien que les architectes en plus anglo-saxons sont toujours hyper enthousiastes, c'est-à-dire qu'on va dire tiens, il faudrait faire ça, ce serait bien d'avoir des matériaux absorbants en plafond et sur certains murs. Et la réponse c'est toujours wonderful, super amazing. Et ils repartent à Londres et ils reviennent 15 jours après et c'est exactement comme avant, que des vitres, que du béton lisse et que des surfaces réverbérantes. Et effectivement, il nous explique que, ben oui, voilà, mais l'idée, c'est de mettre en avant la structure du projet, c'est d'être très, très, comment dire, mesuré sur ce qui est visible en dehors des matériaux structuraux. Et donc, en fait, il n'y a rien qui est apporté et nos calculs montrent qu'il y a un vrai problème d'intelligibilité des messages, de réverbération dans ces halls. Donc, au bout d'un moment, on décide, même si ce n'était pas prévu au départ, de faire justement donc de l'oralisation des maquettes sonores intérieures pour leur faire écouter ce que la conception et les différentes décisions qu'on est amené à prendre va pouvoir générer en termes d'ambiance. Donc, on fait plusieurs cas, sans traitement absorbant, comme quelque part, ils voulaient un petit peu concevoir le Léo à ce stade, avec et puis après avec différents niveaux de degrés de quantité de matériaux absorbants. Donc on passe tout ça dans les process de calcul, hein. On a les logiciels qui permettent de simuler les situations, d'intégrer les haut-parleurs et de ce procédé qu'on a développé chez nous, mais qui est de l'oralisation, on va dire, améliorée, parce qu'on essaye vraiment la contextualiser autant que possible, de construire une maquette qui permet de mieux se rendre compte de quoi on parle. Et puis donc après, on la fait écouter. Donc on va essayer derrière, hein, un petit extrait, mais pour vous dire, vous raconter l'histoire, c'est que en tout cas, pendant 6 mois, sans cette expérimentation sonore, je dirais, on a discuté dans le vide, sans se comprendre les uns les autres. Du jour où on a fait la présentation de ces maquettes, ces architectes sont repartis pareil avec, enfin, sont repartis, parce que chaque fois ils venaient à Lyon, ils repartaient à Londres, sont cette fois repartis en disant, on a compris, là, ce coup-ci, on a compris, et on revient dans 15 jours, on va réfléchir. Ils sont revenus 15 jours après, et il y avait plein de solutions qui finalement étaient devenues possibles, qui finalement étaient même intéressantes pour eux du point de vue esthétique. C'est-à-dire que là où au début ils voyaient ces sujets d'absorption comme une contrainte, eh ben, ces visuels qui sont les visuels de la fin, au final, si vous passez un jour dans cet aéroport, vous verrez des baffles en plafond qui sont au final perforés, etc. Et finalement, ils se sont emparés du sujet acoustique et on en fait quelque part ce qui, à mon avis, aujourd'hui, est un peu une partie de la signature, du design, de la signature d'architecture, en tout cas intérieure de cet élément, de cet aéroport. Et ils sont vraiment appropriés le sujet parce que ces écoutes, je dirais, ont vraiment, pour le coup, transformé leur perception de quelque chose qui était, voilà, une contrainte qui était lointain du STI, de la sono. En gros, on y arrivera toujours, il faudra changer les haut-parleurs. Oui, mais en fait, non. En quelque chose qui devenait effectivement un sujet de préoccupation première pour eux. Je me souviens très bien du chef de projet qui m'a dit, effectivement, je ne vais jamais, avec son accent, je ne vais jamais livrer ça comme bâtiment, j'ai compris. Bon, voilà. Je vous propose d'écouter une petite bande et puis après, on pourra en parler si vous voulez. J'espère que ça va passer. Donc, vous verrez, on entend en gros des alternances on a fait ça pour faire comparer. On entend des messages sonorisés, fictifs, diffusés et la perception en un certain point des halls d'attente. Avec et sans les fameux matériaux absorbants. Et pour finir, avant de diffuser la bande, ce qui était intéressant aussi, c'est que ce truc-là nous a permis de trouver le bon curseur justement de réverbération. On n'est pas forcément allé vers la solution plus, je dirais, parce qu'il y avait aussi des impératifs économiques, mais ça a permis aussi de valider tout ensemble, y compris avec le client final, le maître d'ouvrage, d'être presque un petit peu, parce que vous verrez, c'est pas magique non plus, hein. On est resté un petit peu, entre guillemets, limite sur l'intelligibilité des messages. Mais je dirais, le client final qui avait placé le curseur un peu haut au départ a aussi dit, bon, bah, finalement, vu l'enjeu technico-économique aussi d'aller jusqu'où on voulait aller, un intermédiaire nous paraît la bonne solution. Je vais essayer de diffuser celle-là. Voilà.
Votre attention, s'il vous plaît. Le propriétaire de la voiture de matricule de 1990 GJ90 est prié de déplacer immédiatement son véhicule. Je répète, le propriétaire de la voiture de matricule de 1990 GJ90 est prié de déplacer immédiatement son véhicule. Merci.
Donc, on avait comme ça plusieurs maquettes avec plusieurs configurations de traitement absorbant et aussi on avait fait un travail sur plusieurs types de voix. Des voix masculines, féminines sur les enregistrements qui modifient des perceptions aussi. Bon, voilà un cas où une expérimentation sonore a changé la conception des choses. Comme je disais, j'en ai d'autres, hein, puis après je vous laisse réagir. On a aussi travaillé des fois sur des sujets, bah, notamment avec Olivier, de perception loggia à loggia, enfin extérieure, et pareil avec des écoutes permettant de mieux appréhender. Concrètement, quelle est la différence entre perceptive entre deux balcons séparés par un simple petit parvis et quelque chose de beaucoup plus ambitieux qui a un impact architectural mais qui change beaucoup de choses à l'arrivée en termes de perception. Et comment trouver quelque part le bon système. Voilà.
Merci, super.
Je vais vous raconter.
Est-ce que ça marche? Oui. J'avais une question à te poser, Samuel. Est-ce que les archis ont plus réagi que les maîtres d'ouvrage?
Est-ce que les archis ont plus réagi que les maîtres d'ouvrage? Alors, j'ai aussi des cas.
Tu vois ce que je veux dire, c'est que souvent
Non, je dirais.
celui qui va gérer le lieu va peut-être faire plus attention que
Oui.
les archis.
Pareil, je dirais. Parce que dans un cas, parce que j'ai un autre exemple aussi où là, du coup, c'était sur une arène où l'objectif c'était de faire comprendre au maître d'ouvrage quelque part l'importance de rajouter du budget pour traiter correctement l'acoustique intérieure de cette aréna. Bon, bah, écoutez, là, on n'a pas forcément le temps, mais là, je dirais, l'architecte était déjà convaincu et il nous fallait convaincre le maître d'ouvrage. Dans le cas de l'aéroport, je dirais, le maître d'ouvrage, au départ, lui, n'avait pas tellement de questions parce qu'il avait mis son cahier des charges et il entendait bien qu'on le respecte. En revanche, c'est plus les architectes, effectivement, qui ne comprenaient, enfin, avaient du mal à s'approprier le sujet et qui ont vraiment réagi, sachant que le client final a réagi aussi en ce que je disais, en acceptant en même temps qu'on remette un peu en question le cahier des charges initiales au vu des écoutes. Donc je dirais, ils ont tous les deux réagi. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Merci Samuel. Est-ce qu'il y a des réactions particulières? Oui, bah une question alors, du coup.
Une question assez rapide, assez simple. Déjà, je vous remercie de partager cette méthode de travail. Je me demandais, quand vous invitez des architectes, maîtres d'ouvrage à venir expérimenter, tester ces simulations acoustiques, comment ils écoutent? Est-ce que c'est une écoute tout le monde ensemble, chacun dans une cabine avec un casque? Est-ce qu'on est face à une diffusion avec deux haut-parleurs en stéréo? Est-ce que, enfin, voilà, quel est le dispositif de diffusion?
Ouais, c'est une très bonne question. C'est un vrai sujet, puisque ce qu'on disait tout à l'heure, hein, y a effectivement, il faut faire très attention à ce qu'on fait écouter, au filtre, on va dire, de la salle et de la méthode de diffusion. Bon, les techniques classiques, c'est la salle d'écoute dédiée. Nous, dans ce qu'on essaie de faire, c'est pas toujours simple parce que c'est compliqué quand même d'arriver à déplacer tout le monde au même endroit. Donc, on essaie de le faire à demeure. Ça veut dire que ça se passe soit au casque si on est en petit comité, et c'est ce qu'on préfère parce que c'est quand même le plus fidèle en termes de restitution, soit dans ces cas-là, des fois, on l'a fait avec des petites enceintes, effectivement, en salle de réunion, tout en alertant un petit peu sur la complexité d'avoir en plus un effet de salle, et en disant, ben voilà, on vous diffuse le fichier, parce que derrière, on diffuse on a des vidéos fichiers, et on les dit, réécoutez-le calmement, au calme, avec un casque bien isolé pour réellement vous faire un avis. Mais c'est on est en fait on a besoin d'arriver à discuter avec beaucoup de monde en même temps, et c'est vrai que c'est donc que au casque c'est pas simple. Donc en général on mixe les deux en faisant une présentation aux enceintes dans une salle de réunion chez le client, et derrière on leur demande d'essayer de faire l'exercice de refaire une écoute plus posée au casque.
Je fais deux micro-remarques. Merci infiniment pour cette présentation. Première micro-remarque, c'est que je trouve que cette question du niveau, enfin du degré d'intelligibilité des paroles, au-delà de la question technique que vous présentez, c'est un vrai enjeu d'accessibilité de ce type d'espace aussi, et on l'oublie assez fréquemment. Et donc, je trouve que cette espèce de lien-là entre qualité sonore, niveau d'intelligibilité et inclusion, bah, c'est un argument supplémentaire à faire valoir auprès des architectes quand ils ne comprennent pas. Ça, c'est la première remarque. Et puis, la deuxième remarque, c'est une petite piste et une demi-blague. Pour avoir beaucoup travaillé sur des questions d'accessibilité, sur la question que vous vous posiez là, sur est-ce qu'on fait valoir une voix masculine ou une voix féminine, il y a un ensemble de travaux qui sont menés par des équipes de psychologues, puisque dans les espaces publics, on sonorise les feux de circulation. Et ce qui passe, c'est que c'est la voix féminine qui donne les interdictions et la voix masculine qui donne les autorisations sur les messages. Voilà. Je m'arrête là, je pourrais vous donner les références s'il faut.
C'est pas mal, en effet. D'accord. Merci.
Merci beaucoup, Samuel. Je pense qu'on aura, quand on est un peu pressé par le temps, on aura peut-être le temps de revenir sur ces questions-là d'oralisation, de simulation, peut-être en fin d'après-midi, dans la session plutôt orientée sur le numérique, parce qu'on va expérimenter un dispositif d'immersion, justement. Donc peut-être qu'il y a des questions qui vont se recouper et des choses qu'on va retrouver à ce moment-là.